I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Elles ont osé », proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, telles que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs organisations, Femmes des Territoires, pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, réseau business et sororité pour les dirigeantes, et Bouge ton groupe pour accélérer l'égalité professionnelle dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs qui bougent les lignes de la santé et qui apportent des solutions à celles et ceux qui en ont tant besoin. Deux entrepreneurs à impact, qui sont toutes deux des pionnières par leur parcours et leurs engagements. Bonjour Pauline Dorgeval.
Bonjour Marie.
Alors vous avez été l'une des premières figures de l'entrepreneuriat portée par les femmes au début des années 2000. Il y avait très peu de rôle modèle à cette époque-là et vous en faisiez partie. Vous avez créé en 1999 Mille et une listes, un service internet de listes de mariage et de cadeaux que vous avez dirigé pendant 10 ans. Mille et une listes, c'est un grand succès puisqu'au moment de la vente à TF1, votre entreprise comptait 80 collaborateurs et représentait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes depuis 2016 la cofondatrice et présidente de l'entreprise à mission deuxièmeavis.fr, un service de télémédecine qui permet aux patients et à leur équipe médicale traitante d'obtenir en moins de 7 jours un avis spécialisé en cas de problème de santé sérieux ou complexe. Deuxième avis, ce sont plus de 300 médecins spécialistes et référents, vraiment dans leur domaine, 700 pathologies traitées différentes, 28 millions de bénéficiaires potentiels grâce à leur mutuelle. En gros, tout est pris en charge, c'est gratuit. Vous êtes également présidente de l'association Coactis Santé qui porte deux initiatives phares, Santé BD et Handy Connect, tous deux en faveur de l'accès aux soins pour les personnes vivant avec un handicap. Bonjour Léa Moukanas.
Bonjour Marie.
Vous êtes écrivaine depuis vos 14 ans, avec plusieurs livres déjà à votre actif. Vous venez de terminer vos études à Sciences Po Paris, en master finance et stratégie, et à la Harvard Kennedy School. Vous avez derrière vous déjà un long parcours entrepreneurial, puisque à l'âge de 15 ans, vous avez fondé l'association AIDA pour améliorer la qualité de vie des adolescents et des jeunes atteints d'un cancer, hospitalisés, et ça grâce à des visites, des activités organisées par leur père, c'est-à-dire des jeunes engagés et formés. 8 ans après sa création, AIDA, c'est déjà 30 salariés, 80 000 jeunes sensibilisés, 57 hôpitaux partenaires et chaque année 2500 jeunes bénévoles formés. Vous êtes également la cofondatrice du Collège citoyen de France et vous avez publié récemment un livre très émouvant, « Je vais être utile » aux éditions Robert Laffont. Votre engagement a été récompensé par de nombreux prix et vous avez été nommée récemment par Forbes parmi les 30 femmes de moins de 30 ans en France. Ensemble, Léa Moukanas, Pauline Dorgeval, j'espère qu'on vous donnera envie à vous qui nous écoutez d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Pauline, Léa, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours, puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. Pauline Dorgeval, on commence avec vous. Alors, vous grandissez en Ile-de-France avec l'envie notamment de devenir pilote de chasse et de vite grandir, de vite devenir adulte. Vous étudiez à HEC, l'école de commerce, et votre premier moment clé, c'est celui qui a contribué à déclencher votre parcours entrepreneurial. Cela fait 6 ans que vous travaillez chez Otis, le fabricant d'ascenseurs. Vous gravissez les échelons, ingénieur commercial, puis chef de vente, jusqu'à ce que vous ayez un premier enfant. Et là, tout commence à changer. Est-ce que vous pouvez nous partager ce moment-là, Pauline ?
Oui, ça a été assez, assez important dans ma vie, puisque je marchais très bien, on me proposait des boulots passionnants d'année en année. Et puis, effectivement, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, j'ai rencontré un plafond de verre. Mais c'était rapide, hein, puisque j'avais eu 28 ans, 30 ans, donc j'ai pas compris.
On n'en parlait pas en plus à l'époque, hein, du plafond de verre.
On n'en parlait pas, mais en tout cas, moi, je l'ai bien ressenti. Et puis donc, très vite, je me suis dit, voilà, j'ai envie de prendre ma vie en main et puis de pas être dépendante de ce plafond de verre et donc de créer mon entreprise.
Et comment vous l'avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
Comment j'ai ressenti? Alors déjà, moi, je suis pas quelqu'un de négatif. Donc quand je ressens quelque chose, je cherche plutôt les solutions que de me morfondre dans une situation. Donc ça a été effectivement assez violent quand je l'ai réalisé. Puis quand je l'ai réalisé, j'ai cherché la solution. La solution, c'était de monter une entreprise. Et à ce moment-là, j'ai cherché des idées et naturellement, Millioniste est arrivé.
Est arrivé parce qu'au moment de votre mariage, votre mari vous a vraiment laissé tomber. C'est comme ça que vous me l'avez raconté, en tout cas.
Alors, je ne sais pas s'il va être ravi.
C'est un coup dur, là.
Mais effectivement, on faisait les rayons d'un grand magasin et on choisissait les petites cuillères. Et là, il m'a dit, écoute, là, c'est ton rayon. Moi, ça m'intéresse pas. Je dis, moi non plus, ça m'intéresse pas, en fait. Et donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour que les jeunes, les futurs mariés, puissent ne pas s'engueuler pendant la constitution de leur liste de mariage, qui est quand même un moment fabuleux.
Donc, c'était d'intérêt général. Et comment ça s'est passé au moment où vous décidez de devenir entrepreneur? Parce qu'il y avait très peu de femmes entrepreneurs en 1999. Comment vous avez eu envie de passer ce cap-là?
Non, mais tout le monde n'avait pas besoin de rôle modèle. En fait, un homme pouvait être aussi un rôle modèle. Donc, en tout cas, ça ne m'a jamais, le fait d'être femme n'a jamais été un frein, ou au contraire une motivation supplémentaire pour travailler sur des sujets qui me passionnaient. Et voilà. Donc ça s'est passé après très naturellement. Simplement, c'était une époque incroyable où tout le monde levait des fonds extrêmement facilement. C'était presque les fonds d'investissement qui nous appelaient pour mettre de l'argent dans la société. Enfin, donc, c'était au moment de l'ébullition Internet. C'était une période bénie que je n'ai jamais retrouvée après. Les levées de fonds étaient un peu plus compliquées.
Et vos premiers clients, c'était qui?
Premier client, c'était effectivement ma sœur, mon cousin et un de mes meilleurs amis de liste de mariage. Et puis après, bouche à oreille s'est fait assez vite. Mais voilà, mes premiers clients, c'est un cercle proche. Ça correspondait à un besoin. J'ai eu un déclencheur, c'est que moi, je me posais la question quand même d'aller sur des projets d'intérêt général et éventuellement de rejoindre une association. Et c'est vrai que mon père, à ce moment-là, m'a dit « C'est complètement idiot d'avoir fait HEC et donc, si tu veux avoir de l'impact, crée des emplois et monte ta boîte ». Et en fait, je ne sais pas si c'est ça qui a été le déclencheur, mais ça a participé, entre guillemets, à bouger.
Et donc, vous êtes dit, j'y vais, vous créez mille et une listes, et tout de suite, il y a la famille qui décide de commander chez vous, c'est ça?
Oui. J'ai créé mille et une listes, et puis la famille est un soutien, ça c'est sûr, mais pas que. Très vite, j'ai des premiers clients, et effectivement, ça fait plaisir quand son cercle familial et amical vous fait confiance, parce que ce n'est pas toujours le cas quand on monte une boîte, et qu'on se souvient longtemps des premières personnes qui vous ont fait confiance.
Et notamment, et là, c'est l'ironie de l'histoire, parce que vous vouliez être pilote de chasse. Une pilote de chasse qui fait partie des toutes premières mariées, c'est ça?
Ah oui, je vois que vous avez lu plein de choses. Effectivement, une très, très belle rencontre avec Caroline Aigle, qui malheureusement est décédée depuis, mais qui a été une des premières à déposer sa liste de mariage chez Mille et Une Listes. Et on est resté 3 heures à échanger et à refaire le monde. Très belle rencontre.
Et une fois le premier pas dans l'entrepreneuriat, là ne vous a plus quitté, puisqu'ensuite vous avez créé d'autres entreprises, une autre entreprise, deuxièmeavis.fr, et puis les associations dont on a parlé tout à l'heure. Léa Moukanas, à vous. Vous êtes née à Beyrouth, vous avez grandi aux États-Unis et en France. Votre premier moment clé, c'est lorsque vous découvrez que votre grand-mère, que vous adoriez, Aïda, a un cancer, et c'est pour vous la découverte du monde de l'hôpital. Vous avez 14 ans.
C'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'avais jamais mis les pieds dans un hôpital, heureusement. C'est pas ce qu'on souhaite à une ado de 14 ans. Et donc, quand ma grand-mère tombe malade et hospitalisée, je vais la voir pour la première fois. Et là, je découvre ce monde de l'hôpital qui n'est pas du tout un milieu dans lequel on attend un jeune. Et ma grand-mère partageait sa chambre et partageait le couloir dont elle était traitée avec des jeunes qui avaient mon âge, qui avaient la même maladie qu'elle, mais qui étaient à aucun moment entourés de jeunes. C'est-à-dire qu'ils partageaient dans le service, la moyenne d'âge, ça devait être 60 ans. Il n'y avait rien qui existait pour accompagner accompagner ces jeunes-là dans cet hôpital précisément. Quand on est jeune, on n'imagine déjà pas ce que peut être l'hôpital, parce qu'on se sent invincible et c'est normal, ça fait partie de la construction quand on est jeune. On n'imagine pas non plus que d'autres jeunes peuvent se retrouver dans cette situation-là. Moi, pour moi, le cancer, c'était une maladie de vieux à cette époque. Et c'est vrai qu'on imagine encore moins que quand on a 19 ans, on peut se retrouver traité dans un service tout seul avec une moyenne d'âge autour de 60 ans dans le service. Tout ça, c'était quelque chose qui était très éloigné de ma réalité et très éloigné de ce que je connaissais à cette époque-là.
Du coup, le lendemain, quand votre grand-mère malheureusement décède, le lendemain, vous décidez de créer l'association AIDA. Et vous êtes trop jeune, en fait. Vous n'avez pas le droit de créer une association, Léa. Comment vous faites, du coup?
Oui, c'était assez marrant parce que mes premiers pas dans l'entrepreneuriat étaient... sont pas très légaux. Je sais pas si 10 ans il y a prescription ou pas, mais c'est vrai que j'avais 14 ans à cette époque-là. Je venais tout juste de rentrer en seconde. Il fallait avoir 16 ans pour créer une association. Donc il y a eu quelques petites ruses, notamment j'ai imité la signature de ma mère pour pouvoir créer AIDA et pouvoir démarrer les choses au départ. Mais je l'ai pas fait pour la blague de le faire. Je l'ai surtout fait parce que j'ai voulu m'engager. C'était l'époque à ce moment-là où on parlait de la jeunesse comme étant la génération canapé, la génération qui n'a pas d'avenir. C'était avant toute la vague Greta Thunberg. Après, on a été la génération engagée. Puis après, on a Glow Down à nouveau. On était la génération sacrifiée. Mais ça change tous les ans les surnoms qu'on donne à cette génération. Mais à cette époque-là, c'était la génération canapé. C'est-à-dire que quand vous contactiez une association en disant « j'ai envie de m'engager », on vous regardait en disant « mais en fait, passe ton bac, fais des études et reviens ». Et particulièrement en santé, il y avait ce truc de « si tu veux t'engager en santé », soit professionnel de santé et puis on n'en reparle plus, mais arrête de nous embêter avec ça. Et donc c'est vrai que c'était pas forcément dans la culture de l'époque d'avoir des jeunes dans le monde associatif qui s'engageaient, dans le monde associatif en santé encore moins. Et donc il y a eu la nécessité à un moment de montrer que c'était possible et de créer avec ma classe de seconde à l'époque l'espace dans lequel on pouvait agir.
Et vous ne l'avez pas dit tout de suite à votre famille, hein. Vous l'avez annoncé d'une manière... très chouette d'ailleurs.
Non, je ne l'ai pas dit tout de suite à ma famille parce que j'avais, un, peur que ça ne fonctionne pas. Et deux, je me disais, bon, il y a une histoire quand même familiale derrière tout ça, donc il faut les ménager un peu avant de leur dire. Et donc j'ai emballé à Noël, sous le sapin de Noël, des t-shirts avec marqué AIDA dessus. Et donc c'est comme ça que je l'ai annoncé à ma famille ce soir-là, quand ils ont ouvert leur cadeau de Noël et qu'ils ont vu qu'il y avait des t-shirts AIDA. Donc c'est pratique, j'ai fait des économies sur le cadeau de Noël que j'ai offert à mes parents. Et puis en plus de ça, ça a été une bonne façon de l'annoncer à ma famille après quelques mois de création d'association quand même.
Et depuis AIDA, 8 ans plus tard, donc c'est 80 000 jeunes sensibilisés, 2300 patients accompagnés chaque année. Pauline Dorgeval, Léa Moukanas, je vous propose d'échanger sur vos parcours d'entrepreneurs en regard croisé. Donc vous pouvez échanger l'une avec l'autre. Les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risques maximales, ce qui a construit vos moments de succès, vos difficultés, ce que vous avez dû défendre et vos engagements forts à toutes les deux. Et puis nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. Est-ce que, Pauline, vous pouvez partager avec nous une opportunité que vous avez su voir et que vous avez su transformer et qui a déclenché la suite? Cette opportunité-là, c'est la naissance de deuxièmeavis.fr. C'est, vous avez 4 enfants, dont un enfant en situation de handicap, et un jour, il faut l'opérer, il faut l'emmener chez le médecin, et c'est très compliqué.
Effectivement, en fait, mon fils était suivi à Necker, hein, et le médecin nous dit, écoutez, pour moi, il faut opérer, mais je vous incite à prendre un second avis parce que l'opération est risquée, elle est lourde, hein, et on a besoin d'avoir l'adhésion de la famille. En revanche, il ne nous donne pas de nom de médecin qu'on peut aller voir, donc heureusement, nous, on a beaucoup d'amis médecins. On met 10 jours quand même à identifier un autre médecin expert en scoliose infantile, 4 mois à obtenir le rendez-vous, et quand on arrive sur place, mon fils, qui en effet est autiste, déficience intellectuelle, panique, hein, crise d'angoisse, impossible de l'amener devant le médecin. Et donc, j'arrive avec un dossier complet et le médecin regarde le dossier, regarde les IRM, me pose des questions et me dit « Madame, je vais vous donner un avis sérieux. » L'avis était convergent. « Je peux le faire parce que j'ai l'intégralité du dossier. » Et finalement, c'est vrai que d'une épreuve, parce que ça a été quand même une épreuve, tout de suite, je suis ressortie en me disant, mais en fait, si un avis sur dossier peut être sérieux à ce moment-là et pertinent d'un point de vue médical, à ce moment-là, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de mobilité, qui habitent loin ou qui n'ont pas de réseau médical, ce serait formidable de pouvoir l'organiser pour elles. Voilà.
Et c'est comme ça que vous créez deuxièmeavis.fr en 2014, hein, c'est ça, avec Catherine Franc, Prune Nercy, qui
exactement.
Sont deux anciennes collègues d'HEC. Il y a un énorme travail hein, sur l'accessibilité, sur le handicap à faire en France. On voit bien que ça révèle tous les dysfonctionnements de la société.
Complètement.
C'est,
ouais.
c'est une personne sur sept en France hein, avec, en situation de handicap.
Une personne pour sept. Alors, deuxième avis, c'est toujours pareil. Hein, c'est, moi, le point de départ, ça a été mon fils et puis tout de suite, j'ai vu tout ce que ça pouvait apporter aux personnes en situation de handicap et avec des problèmes de mobilité. Mais ce qu'on imagine pour elles bénéficie à toute la société et à tout le monde, comme d'habitude. Et puis, deuxième avis, effectivement, après, on était pionniers en télémédecine sur un sujet où peut-être notre nom nous a desservi auprès de la communauté médicale, parce que le deuxième avis, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, même si c'est complètement en train de changer maintenant. Voilà, donc ça a été effectivement un beau combat pour monter ce service de télémédecine.
Et on en reparlera.
On en reparlera.
Léa, vous avez créé l'association AIDA avec cette difficulté également d'entrer à l'hôpital quand on est mineur. Vous avez mis plus d'un an et demi à obtenir les autorisations. Je crois que c'était pareil pour vous, hein, Pauline.
Exactement, un an et demi.
Ça fait un point commun là-dessus.
Et l'opportunité que vous avez saisie, c'est que vous avez enfin eu le droit, au bout d'un an et demi, de créer une soirée, d'organiser une soirée à l'hôpital. Et là, vous embarquez avec vous 22 jeunes de votre lycée. Et comment ça s'est passé, alors, cette première activité et initiative de AIDA, finalement ?
Alors, effectivement, on a mis beaucoup de temps à pouvoir rentrer à l'hôpital. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça a généré beaucoup de questions chez nous sur notamment comment est-ce qu'on peut former, comment est-ce qu'on peut accompagner des jeunes à rentrer dans cet écosystème particulier qui est l'hôpital, parce qu'ils ne sont pas forcément attendus ici. Et donc, on a cette première opportunité à la clinique Édouard Rist, qui est dans le 16e arrondissement, qui est une clinique de soins de suite. Donc, c'est une clinique dans laquelle vous allez entre les traitements, vous allez après les traitements pour de la rééducation. Et donc, on a l'opportunité, un peu par hasard, et j'en ai reparlé avec l'animateur Thierry qui nous a donné cette opportunité il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, écoute, honnêtement, avec le recul, je ne sais pas pourquoi je t'ai fait confiance, mais il y avait un truc dans la façon dont tu as présenté les choses qui a fait que, de toute façon, j'ai compris que je n'avais pas le choix et je me suis dit que tu le ferais, que vous planteriez et qu'après, vous passeriez à autre chose, quoi. Et donc, on organise cette première soirée à l'hôpital, on a 15 ans. Et juste avant la soirée, moi, je tâte un peu le terrain à l'hôpital. Alors, tout le monde me regardait en se disant « elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle arrive, elle sait où elle met les pieds ».
Bon, j'avais pas du tout.
Je savais rien de ce que j'étais en train de faire, donc c'était assez marrant avec le recul. Et les jeunes à l'hôpital n'avaient pas du tout envie de recevoir la visite d'une association. On accompagne une cible qui est particulière, les adolescents et les jeunes adultes. C'est pas des enfants, c'est pas des adultes. Pour ceux et celles qui nous écoutent qui ont des ados, je pense que c'est assez évident et personne ne confond un ado ou un jeune adulte avec un enfant. Parfois, c'est ce que fait le système de santé quand même.
Ah non, c'est très différent.
C'est très différent. Mais donc, il y avait un peu ce mur qui s'était créé à l'hôpital et cette solitude d'être jeune, d'avoir 19 ans et d'être à l'hôpital. Donc, on arrive et là, il y a quelque chose qui se met en scène dans le service où tout d'un coup, les codes de l'adolescence se recréent hyper naturellement. Vous avez des jeunes de ma classe qui arrivent, qui mettent la musique, qui installent le buffet. Il y en a qui dansent sur la piste de danse. Il y en a qui sont en périphérie de la piste de danse parce qu'ils sont trop timides pour aller danser. Enfin bon, tous les codes qu'il peut y avoir à une soirée classique se recréent. Et ce soir-là, moi, je rencontre une jeune fille qui s'appelle Justine, qui a exactement mon âge et qui, au départ, veut pas tellement me parler. Elle est un peu de côté.
Et toutes les deux, vous n'avez pas du tout envie de danser,
non,
c'est ça ?
Non, heureusement pour le public qui était là qu'on n'a pas dansé, mais c'est vrai que toutes les deux, on était plutôt en bordure de piste de danse à essayer de regarder ce qui se passait en face de nous. Et donc, je m'approche de Justine et j'essaye d'engager la conversation avec elle. Et quand elle se rend compte que j'ai 15 ans, comme elle, il y a quelque chose dans son regard qui change totalement. Et elle se dit, non mais en fait, c'est pas une asso, c'est juste des pères qui sont là
des jeunes.
Pour venir passer du temps avec moi. C'est juste des jeunes qui sont là pour passer du temps avec moi. Et donc j'ai passé toute la soirée, c'était il y a 10 ans, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai passé toute la soirée avec Justine, on a joué du piano dans sa chambre. Et à la fin de la soirée, au moment où je ferme la porte, et Justine avait un sacré caractère, hein, mais au moment où je ferme la porte, elle la bloque avec son pied et elle me dit merci parce que pour la première fois à l'hôpital, je me suis sentie jeune et pas malade. Et ça, je pense que ça a été le déclic et le révélateur de plein de choses pour la suite et l'ADN d'AIDA qui existe encore 10 ans après.
Et dans votre livre, vous dites que vous n'avez pas eu de nouvelles d'elle depuis. Ouais. C'est toujours le cas ?
C'est toujours le cas. J'ai pas eu de nouvelles de Justine après. J'espérais que le livre permettrait de la retrouver. J'en ai parlé avec ses médecins, mais on ne sait pas où elle est. Elle venait de la Martinique à la base, donc j'espère pour elle qu'elle y est retournée et qu'aujourd'hui, à mon âge, elle a 24 ans, qu'elle fait ce qu'elle aime et qu'elle est là où elle est la plus heureuse possible.
Et bien sûr, Justine, c'est pas son vrai prénom. Hein.
Justine, c'est pas son vrai prénom, mais normalement, il y avait suffisamment de détails dans le livre pour qu'elle puisse se reconnaître.
Et donc, du coup, Pauline, vous créez Deuxième Avis vraiment avec cette envie d'intérêt général, cette mission d'aider toutes celles et ceux qui ne peuvent pas avoir accès à un deuxième avis. Vous avez mis 4 mois pour avoir ce deuxième spécialiste, mais parfois, ça se compte en années.
Exactement. En fait, c'est extrêmement compliqué quand on est confronté à un problème de santé sérieux d'accéder à l'expertise médicale. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, la médecine a fait des progrès très rapides. Et donc, aujourd'hui, on a accès à une médecine de surspécialiste. Et donc, quand vous avez une pathologie, forcément, vous êtes mieux pris en charge si vous avez pu accéder à cette surspécialité, à cette hyperspécialiste, entre guillemets, et vous avez plus de chances de guérison, entre guillemets. Hein. On évite les pertes de chances. Donc, l'enjeu de Deuxième Avis, pour moi, c'était de faciliter l'accès à l'expertise médicale pour tous, hein, toutes les équipes médicales, tous les patients, quel que soit le lieu d'habitation, quel que soit le problème de mobilité ou quel que soit, j'ai envie de dire, le réseau médical que le patient ou son équipe médicale avait ou pas, en rendant transparente une démarche que font naturellement les médecins pour leurs familles, pour leurs amis, parce qu'ils savent où aller. Mais voilà, qui ont plus de mal à faire certains patients.
Qui n'étaient pas institutionnalisés. En fait, vous avez vraiment bougé les lignes.
On a bougé les lignes, on a organisé une pratique qui se faisait de façon pas forcément transparente.
Et pour les plus privilégiés, en tout cas ceux qui connaissaient un médecin.
Exactement, voilà.
Pauline, Léa, je vais vous demander de partager avec nous un moment difficile que vous avez dû affronter, l'une et l'autre. Pauline, c'est justement quand vous créez deuxièmeavis.fr avec cette mission forte hein, d'apporter des solutions à ceux qui n'en ont pas. Et en fait, ça se retourne contre vous avant même que vous lanciez Deuxième Avis. C'est-à-dire que ce n'était pas lancé et une polémique a commencé à naître sur Twitter.
C'est exactement ça. En fait, donc, nous, notre ADN est un ADN social. On voulait vraiment favoriser l'accès à l'expertise pour tous. On venait d'obtenir l'autorisation de la CNIL, puisque à l'époque, il fallait une autorisation. Et là, il y a eu un article sur l'importance du deuxième avis par une association où on était cité. Et là, les syndicats de médecins se sont emparés du sujet en disant, en se moquant du deuxième avis, en disant deuxième avis, pourquoi pas un troisième et un quatrième, les patients vont être perdus. La télémédecine, en plus, c'est de la mauvaise médecine parce qu'on était pionniers. Donc on sait, et en plus, c'est de la médecine à deux vitesses, c'est inadmissible. Et donc on était attaqués finalement là où justement on voulait permettre à tous d'accéder à l'expertise médicale. Mais à l'époque, on n'avait pas encore, parce que notre modèle économique et puis nos partenaires sont, c'est le monde assurantiel, hein, le monde mutualiste. Et donc on n'avait pas encore de partenaires.
Vous n'étiez pas encore lancé en plus.
On n'était pas encore lancé, il y avait... Voilà. Puis le monde de la santé est un monde particulier. Donc ça a été particulièrement compliqué au tout démarrage. Et puis très vite, ça a été, là encore, ça s'est transformé en opportunité. Puisque du coup, on est devenu très visible. Je suis même passée au JT de TF1 alors que le service était en train de se lancer. Donc ce qui est quand même formidable. Et on a eu des soutiens de la part de médecins, d'éthiciens.
Des pontins.
Voilà. Et de premiers patients. Donc ça a été formidable finalement.
Parce qu'en fait, ce qui vous était reproché aussi, c'est que le coût du deuxième avis soit autour de 300 euros, c'est ça ? Parce que vous n'aviez pas encore pu tisser des partenariats avec les mutuelles, les assurances. Et aujourd'hui, tout est gratuit.
Alors effectivement, mais même à l'époque, de toute façon, on avait monté un fonds de dotation pour pouvoir prendre en charge ceux qui ne pouvaient pas payer. Mais de toute façon, la santé n'est pas gratuite. La santé a un coût. L'organisation d'un service comme le nôtre, même dans le cadre d'une entreprise à impact, d'une entreprise à mission, ça a un coût, réellement. Et donc, voilà, à l'époque, on était un peu sur un modèle à l'anglo-saxonne, en disant soit vous pouvez payer, soit, en tout cas, ce sera pris en charge par notre fonds de dotation. En attendant, de nouer des partenariats. Et là, voilà, avec l'ensemble du monde assurantiel, et aujourd'hui, on a des partenaires formidables.
Et c'est vrai que vous faites la une partout, et vous aviez l'habitude de répondre aux médias, parce qu'avec mille et une listes, vous aviez été souvent interviewée.
Oui, mais c'est pas pareil. C'est complètement différent de répondre en situation de crise. Et en plus, là, c'est formidable aujourd'hui parce qu'on a le temps. Mais quand on vous demande pourquoi 300 euros, alors qu'en fait, vous avez le besoin, répondre à cette question évite de répondre aux besoins premiers et finalement à l'impératif qui a conduit à ce qu'on crée Deuxième Avis. Donc, ça a été une période, en tout cas, que moi, j'ai trouvé très dure, mes associés aussi. Mais encore une fois, qui s'est transformé en opportunité dès qu'on a pu avoir aussi le temps d'expliquer la démarche, de faire de la pédagogie, puis qu'on a vu qu'il fallait qu'on tienne parce qu'on avait le soutien de tant de médecins, de tant de patients et, voilà, et même d'éthiciens.
En fait, vous attaquiez une institution qui ne bougeait pas beaucoup, des égos. C'est ça ?
Oui, puis un milieu très conservateur et un milieu qui est suspicieux. La santé, tout ce qui ne vient pas du public, on a l'impression que c'est effectivement forcément pour se faire plein d'argent. Non, nous, c'était pour résoudre un problème de santé publique. Et simplement, on s'est posé la question de le monter en association, mais on a trouvé ça plus efficace de le monter en entreprise à impact. Et de fait, ça va assez vite.
Oui, puis vous avez vraiment bien rebondi parce que du coup, vous avez créé tout un comité de médecins autour de vous pour vraiment travailler avec le Conseil de l'Ordre et donc faire en sorte de grandir ensemble, c'est ça ?
Exactement. De toute façon, depuis le départ, l'idée, c'est de co-construire avec les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les médecins de ville, les médecins hospitaliers, les institutions, les financeurs, les mutuelles. Donc oui, bien sûr, on a un conseil scientifique et éthique. On a maintenant un comité de mission. Et puis on travaille, j'ai oublié, dans les parties prenantes, évidemment, toutes les associations de patients. Pour qui on fait quand même ça. Et donc, on co-construit ensemble un système, entre guillemets, plus efficient, enfin, en tout cas, mais en conservant le modèle social français qui est assez exceptionnel.
En tout cas, c'est un lancement qui est fulgurant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Léa.
Et moi, j'avais bien sûr entendu parler de Deuxième Avis. Non, je trouve ça... Il y a un point que je rejoins, c'est qu'on ne sait pas forcément toujours où on s'informe en santé. Nous, on a fait une étude auprès des jeunes pour savoir où ils s'informaient. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont très vulnérables vis-à-vis de l'accès à l'information. Et que quand on n'a pas grandi dans une famille où on est en lien avec des professionnels de santé, quand on n'a pas grandi dans cet écosystème-là, c'est très compliqué d'y avoir accès dans certains milieux. Et encore plus un deuxième avis, déjà de trouver le premier et de savoir où on s'oriente au début, pour certains c'est compliqué. Donc moi je trouve ça super, et je crois aussi que le monde de la santé aujourd'hui, c'est le modèle social dont vous parliez, mais c'est aussi la collaboration de ce modèle social avec le monde de l'entreprise, avec le secteur associatif, et que le monde de la santé va pas très bien aujourd'hui en France, et que toutes les initiatives sont bonnes pour le soutenir quand elles sont dans l'intérêt général et dans l'objectif de servir le sujet.
Complètement, mais c'est un peu nouveau, on va dire.
C'est nouveau, mais je trouve que ça émerge de plus en plus. Quand on est arrivé avec Aïda à l'hôpital en 2015, il y avait vraiment cette idée que qu'est-ce que des jeunes viennent faire ici. Et en fait, 9 ans après, il y a vraiment cette idée que l'engagement citoyen et de construire le système de santé de demain, il se fait aussi en impliquant les nouvelles générations, et que la santé, c'est pas qu'une affaire de patients ou de professionnels de santé, mais c'est avant tout une affaire de citoyen, parce que c'est un bien commun qu'on a dans la société aujourd'hui. Et moi, je trouve ça génial. Moi, je crois que la santé pourrait s'inspirer du foot, par exemple, sur certains aspects, parce qu'en fait, l'idée, c'est de se faire une passe pour marquer un but au bénéfice du patient. Et donc, si on arrive à faire ça et si on arrive à construire ça pour la suite, je trouve ça super.
Très bien. Je suis en totale adéquation avec ce que vous dites.
Mince, on aurait pu se taper dessus dans le podcast.
Vous, Léa, votre moment difficile, forcément, vous êtes régulièrement et les bénévoles formés confrontés à des décès. On est sur un sujet vraiment difficile, dur, des jeunes atteints de cancer. Il y en a un particulièrement qui vous a marqué, c'est ça ?
Alors oui, c'est vrai, un jeune sur cinq qu'on accompagne ne va pas s'en sortir et va mourir. Le fait de créer AIDA et de mettre en mouvement des jeunes autour de ce sujet, ça permet aussi de lever des tabous autour de la maladie, autour de la mort. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on est confronté très régulièrement aux décès de patients qu'on accompagne. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué en 10 ans, mais il y en a Un en particulier qui m'a marquée parce que je me suis sentie très vulnérable dans la façon d'accompagner mon équipe vis-à-vis de ce sujet. C'était un patient qui s'appelait Thomas, que mon équipe adorait, avec qui il passait beaucoup de temps, qui adorait la musique, qui mettait une super ambiance dans le service, en particulier pendant le Covid, parce que du coup on entendait sa guitare dans les couloirs et ça encourageait aussi les professionnels de santé et les autres patients pendant cette période-là. Et avec Thomas, on a construit toute une histoire autour de la musique. Il rêvait, il avait 24 ans, il allait bientôt avoir 25 ans. Il rêvait absolument de pouvoir enregistrer une chanson et qu'elle soit diffusée au maximum. Et donc, on a écrit une chanson avec lui, il l'a enregistrée. Et il l'a enregistrée quelques jours après avoir appris qu'il n'allait pas pouvoir s'en sortir et que ça allait être ses derniers mois vers la fin de sa vie. Et donc, on l'a accompagné pendant cette période-là. Et il a pu écouter la chanson qu'on a enregistrée ensemble quelques heures avant de mourir. Et je pense que ça a été à la fois un moment très difficile pour toute l'équipe, parce que évidemment, vous avez beau être confronté toutes les semaines, c'est à chaque fois difficile et on s'habitue jamais. C'est faux de dire qu'on s'habitue. Parfois, on est un peu anesthésié, mais on s'habitue jamais. Et de l'autre côté, je pense qu'il nous a donné et transmis beaucoup d'énergie pour la suite. Et moi, il n'y a pas un moment aujourd'hui, quand je me lève le matin, où je ne me dis pas « Non mais attends, Thomas, ça l'aurait fait marrer » ou « Ça, il faut continuer à avancer comme ça parce qu'il l'aurait fait comme ça ». Et je pense que c'est aussi important de mettre des mots sur ce sujet-là parce qu'il est hyper tabou. Et moi, quand j'ai commencé la toute première formation qu'on a fait avec nos bénévoles, bah, en fait, c'était fou. La parole se déliait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parlait de sa tante qui s'était suicidée, l'autre qui parlait de son frère qui avait eu un cancer, qui était décédé il y a 20 ans et qui n'avait jamais pu en parler. Et en fait, je crois vraiment qu'il y a un sujet de mettre des mots sur ce sujet qui est éminemment difficile, mais qu'en abordant tous ensemble et en discutant tous ensemble, on peut le traverser de façon collective.
Et comment vous êtes accompagnée? Parce que c'est dur de vivre tout ce que vous vivez. Enfin, ça, en plus, ça, j'imagine, ça doit faire grandir vite, ça doit faire mûrir vite aussi. Hein.
C'est une bonne question. Nous, on est vraiment en support de ce que vivent déjà les familles, de ce que vivent les professionnels de santé. C'est-à-dire que chacun a la juste place et l'implication par rapport aux patients. Donc, nous, la difficulté de ce qu'on vit, c'est ce transfert de pair à pair. C'est-à-dire que vous avez... moi, j'ai 24 ans, Thomas avait 24 ans, et donc on a exactement le même âge. Et donc, comment vous accompagnez ça? On a créé des blocs de formation chez AIDA qui nous permettent de former les bénévoles qui interviennent à l'hôpital. On ne commence pas directement dans des services où c'est un peu plus compliqué. On commence dans des maisons de parents, puis on commence dans des services de soins de suite et de rééducation. Et puis, ça monte graduellement en intensité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a 9 ans, on fait le choix d'avoir une psychologue qui puisse s'engager avec AIDA, qui travaille aujourd'hui chez nous, qui s'appelle Emma, qui est formidable et qui est la seule psychologue que je connaisse, que tous les jeunes adorent de façon unanime quand ils la rencontrent, et qui fait vraiment ce travail de comment est-ce que j'ai ma casquette de bénévole à l'hôpital, mais comment est-ce que aussi à côté, j'ai ma casquette de jeune et que je peux enlever et mettre une casquette l'une après l'autre. Et elle leur fait faire un exercice que moi j'aime particulièrement et que j'invite ceux qui nous écoutent à faire. Elle leur demande de faire une liste des 30 choses qui les ressourcent, qui remplissent leur bouteille d'oxygène quand elle se vide et qui leur permettent de faire face. Et c'est très dur. Moi, je suis à une dizaine de choses sur ma liste en 10 ans. J'ai du mal encore à arriver à 30. Mais c'est un super exercice à faire pour remplir sa bouteille d'oxygène.
Ah oui, c'est vraiment intéressant comme exercice. Je vais m'y mettre.
On va tous s'y mettre.
Pauline, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez tout ce que vivent Léa, les jeunes, etc. Vous aussi, vous avez été confrontée notamment avec le handicap, c'est aussi quelque chose de très difficile à vivre. Comment vous avez été accompagnée? Qu'est-ce que vous avez appris de toutes ces années à vivre aussi avec le handicap?
Alors déjà, franchement, je suis bluffée par tout ce qu'a fait Léa. Et je pense qu'en effet, moi, ce que ça m'inspire, c'est que ce qui fait le plus mal quand on est malade, ce qui fait le plus mal quand on est handicapé, quand on est enfant handicapé, c'est le regard des autres. C'est le regard de la société sur cette fragilité, en fait. Et donc, vous, avec votre association, vous aidez à changer le regard. C'est des jeunes avant tout. Et voilà, et moi, ce que ça m'inspire, c'est ce que ça me donne envie de faire et ce que je fais à travers Santé BD, Culture Relax, etc. C'est de changer ce regard, c'est de réinstaurer dans la vie des fragilités, qu'elles soient acceptées finalement et qu'on vive avec plutôt que de les rejeter et d'en avoir peur. Voilà, c'est pas simple. Nous aussi, même dans le cadre de deuxième avis aussi, on est confronté quand même à des, parfois à des appels de patients vraiment en souffrance, vraiment en détresse, et on se fait aussi aider par un psychologue spécialisé, parce que c'est important de se faire accompagner, d'accompagner ses équipes dans ces moments-là.
Vous avez parlé de santé BD, ça permet aux personnes qui ont des difficultés de compréhension ou d'expression de se préparer, c'est ça, aux différentes interventions médicales, au passage devant un médecin.
Alors c'est tout bête, hein. C'est juste que y a beaucoup de renoncement aux soins des personnes ou des familles qui ont un enfant en situation de handicap, parce que ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur que, c'est vrai que rien n'est vraiment n'était prévu pour accueillir une personne en situation de handicap, que le handicap soit moteur ou trouble de comportement comme l'autisme ou d'autres types de handicap. Et donc l'idée avec Santé BD, au moins, c'est de résoudre le problème de communication, c'est de faire en sorte que tout le monde, alors une personne avec déficience intellectuelle, ou tous les enfants, ou toutes les adultes qui ne parlent pas très bien français, puissent comprendre comment va se dérouler la consultation, mais aussi comprendre les messages de prévention, les messages de dépistage, et là encore, rendre accessible. Là, c'est une information qui n'était pas accessible à tout le monde. On ne se rend pas compte, mais pour être accessible, évidemment, tous les médecins vont vous dire « mais bah, nous, on accueille tout le monde ». Sauf que c'est des renoncements aux soins parce que rien n'est pensé pour ces personnes.
Rien voilà. Que le déplacement, c'est impossible.
Le déplacement, et puis voilà, puis quand vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, ou quand, par exemple, une prise de sang ou un examen gynécologique, ou c'est très dentaire, c'est très intrusif. Et donc, pour des personnes, par exemple, avec autisme, si elles ne sont pas préparées avec un outil de communication adapté à ces consultations, en fait, la consultation, elle n'est pas possible. Les personnes vont angoisser, vont faire une crise, et donc ça ne permet pas la consultation. Donc ça permet finalement de rendre possible des consultations pour tous.
Et ça, Santé BD, c'est né de l'association Coactus.
Santé BD, c'est né aussi d'une expérience personnelle avec mon fils, puisque quand il s'est fait opérer toujours pour sa scoliose, on a cherché des explications pour lui montrer ce qui allait se passer. Et en fait, on a trouvé que des vidéos, donc absolument sur internet, donc c'était impossible de lui montrer ça, et donc on a commencé à faire des découpages, et puis en fait c'est toujours pareil, l'idée c'est de pas créer pour soi, mais de profiter de voir une situation et de se dire mais en fait même tous les enfants ils devraient avoir accès à une explication avant une opération ou avant une prise en charge un peu complexe. Voilà, donc Santé BD, c'est le démarrage, c'est ça.
Alors, dans votre parcours, quel moment a été un peu magique? Est-ce que vous avez eu un moment où vous vous êtes dit « c'est bon, je suis sur la bonne voie, tout marche très bien ». Pauline, vous, c'est avec, au démarrage, mille et une listes, parce que tout a marché très vite, vous l'avez dit tout à l'heure, le bouche à oreille s'est fait.
Oui, alors j'ai envie de dire que moment magique, il y en a eu plein, franchement, dans les entreprises. Il y a plein de moments difficiles et plein de moments un peu euphorisants, je trouve. Pour n'en citer qu'un, c'est vrai que quand on s'est rendu compte, peut-être 5 ans après la création de Mille et Une Listes, qu'on était en volume d'activité plus gros que le printemps, que les listes de mariage du printemps, ça faisait vraiment plaisir.
C'est la classe.
voilà. Et puis après, dans le cadre de deuxième avis, clairement, c'est les témoignages patients. Enfin, le premier témoignage d'une patiente qui devait se faire opérer à cœur ouvert, et finalement, il y avait une alternative technique pour qu'elle ne se fasse pas opérer à cœur ouvert.
Qu'elle a trouvé grâce à vous ?
Qu'elle a trouvé grâce à nous. On a eu un témoignage dithyrambique. C'est une patiente avec laquelle on est encore en lien, entre guillemets, et tous les jours, on reçoit des témoignages de patients, de leurs médecins aussi, en disant, grâce à vous, on a trouvé une solution collégiale pour ce patient, et donc c'est ça qui fait vraiment le plus plaisir, c'est ça les moments magiques.
Et quand vous avez eu le témoignage de cette patiente, vous l'avez appelée ?
Tout de suite appelée, d'abord parce que on a parlé de la polémique avant, et donc ça redonne tout le sens à ce qu'on faisait, et ça valait le coup de se battre, même si on ne se posait pas trop de questions, et de l'entendre de vive voix, ça change tout. On s'est même rencontrés, vous voyez.
Léa, vous, un moment magique, c'est la magie des échanges entre pairs, vous l'avez dit à plusieurs reprises. C'est ça qui fait tout. Est-ce que vous pouvez nous donner un moment où justement le fait d'être avec d'autres jeunes, ça a déclenché quelque chose de particulier?
Carrément. Je rejoins déjà ce que vous disiez du côté, il y a des moments très durs, il y a des moments euphorisants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours de juste milieu, c'est un peu les montagnes russes. Donc c'est vrai que de choisir un moment en particulier sur ces 10 dernières années, ce n'est pas évident. Mais si je dois en mettre un de côté qui m'a particulièrement marqué, d'autant plus que j'ai revu le jeune en question il n'y a pas très longtemps. C'était à l'issue d'un week-end, c'est un programme qu'on organise qui s'appelle Highway to Health, donc une petite référence à ACDC, qui est un programme d'accompagnement d'un an de jeunes qui sortent de traitement pour les aider à se projeter dans leur vie d'après, professionnelle, académique, personnelle. Et donc on les accompagne pendant un an sous forme de week-end. Et donc, bon, fallait imaginer au départ, on arrive à l'hôpital, on dit, on va partir avec 200 jeunes en week-end, est-ce que vous êtes prêts? Et donc on embarque les équipes médicales avec nous, on part avec tout le monde, avec toujours cette conviction que ça allait changer les choses, que c'était à côté des codes usuels à l'hôpital, à côté des codes dans la prise en charge en cancérologie, mais que ça allait vraiment changer les choses et avoir un bénéfice pour les jeunes. Mais toujours avec le doute de, je fais ça, c'est un risque, est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que vraiment ça vaut la peine de soulever autant de montagnes? Et donc, on est à l'issue de ce premier week-end qu'on organise. On a un jeune qui s'appelle Bastien, qui a été odieux tout le week-end, qui avait 21 ans, qui s'est moqué de ses camarades, qui a fait un croche-patte à un jeune, qui a poussé un jeune en fauteuil pour qu'il dévale la pente, qui se moquait physiquement de certains staffs qui étaient au week-end. Voilà, mais ce jeune-là, ce que ça voulait dire, c'est pas qu'il était méchant, c'est qu'il était en colère, parce qu'il y a une vraie injustice à avoir un cancer quand on a 20 ans ou 21 ans. Et ce jeune-là était très, très, très en colère. Et un soir, on l'avait perdu au week-end, on ne savait pas où il était. Tout le monde cherchait Bastien dans un grand domaine. Et donc, on part tous en binôme. Et donc, je pars avec un bénévole et on est à la recherche de Bastien. Et puis, je vois Bastien dans un coin en train de fumer et en train de ruminer. Donc, je m'assieds à côté de lui et on a cette conversation tous les deux. Et je me rends compte qu'il est en colère contre ses parents, qu'il se sent abandonné, qu'il est en colère contre la société, qu'il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive à lui, qu'il avait plein de rêves et que sa maladie arrive à un moment où tous ses rêves étaient en train de se concrétiser et que Bastien est super en colère. Et on a une discussion ensemble. Alors, je lui enlève sa clope. Il me dit qu'est-ce que ça change, parce qu'un cancer ou deux, de toute façon, voilà. Toujours avec cette pointe d'humour noir, enfin, Bastien, quoi. Mais ce moment où, grâce au pair à pair, grâce au fait qu'on parle le même langage, grâce au fait que vous aussi, vous comprenez ce que ça peut être d'être en colère contre ses parents quand vous êtes jeune, vous arrivez un peu à délier les choses. Et deux jours après, le lundi matin, à la fin du week-end, je vais au bureau et j'ai un appel sur mon portable et c'est Bastien qui me dit qu'il déjeune avec ses parents et qui me dit que ce week-end a changé son regard sur les choses et l'a vachement apaisé. Et je pense que c'est aussi ce qui nous rappelle pourquoi on se lève le matin, pourquoi on décide d'être un peu à côté des clous, à côté des codes et de prendre des risques et de se battre au quotidien quand on a ce genre de témoignage.
C'est sûr. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu l'impression de prendre une prise de risque maximale? Vous avez l'impression que ça passait ou cassait pour votre organisation?
Je pense qu'on prend des risques tout le temps. Enfin, quand vous avez 14 ans, que vous démarrez, que vous n'êtes pas là où on vous attend dans un parcours classique. Et quand on entreprend, de façon générale, on prend des risques tout le temps. Moi, j'ai embauché mon premier salarié quand j'avais 17 ans. Donc, j'avoue que...
Qui avait
le double. J'avoue que quand j'ai fermé la porte du bureau et que je l'ai laissé en lui faisant croire que j'allais en rendez-vous et en fait, j'allais en cours, je me suis dit, waouh, va falloir gérer dans les prochains mois parce que là, il y a une responsabilité supplémentaire.
C'est pas de la rigolade, quoi. C'est sérieux. Et vous, Pauline?
Et donc, pareil, plein de moments où je me suis sentie en risque. Hein, mais le moment qui m'a le plus frappée, c'était... on devait lever des fonds dans le cadre de Mille et Une Listes. Il y a eu le 11 septembre 2001. Et à ce moment-là, tous les fonds sont rétractés. J'avais plus de quoi payer les salaires à la fin du mois. Et donc, je suis allée déjeuner avec le patron de mon fonds d'investissement historique. Et je savais que ça allait passer ou casser. Et donc...
Fallait tout donner, c'est ça?
Il fallait tout donner. Bon, c'était finalement assez naturel parce que quand on entreprend et surtout... l'idée, c'est de rester vrai dans tous les cas. Hein, mais voilà, c'est passé. Mais c'est passé à pas grand-chose puisqu'à quelques jours près, on aurait dû fermer la porte.
Et vous êtes toujours en lien avec lui?
Et toujours en lien avec lui, et même récemment croisé, il me dit franchement, pour deuxième avis, n'hésite pas à venir me voir.
Alors, en parallèle, ce qui est incroyable avec vous deux, c'est que vous êtes aussi très engagés. Donc, on l'a dit, Pauline, hein, avec Santé BD, il y a aussi Andy Connect. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Andy Connect et Culture Relax?
Oui, alors Andy Connect, c'est un site ressource pour les professionnels de santé, pour qu'ils puissent accueillir dans de bonnes conditions et soigner dans de bonnes conditions des personnes en situation de handicap. Donc, c'est donner très rapidement quelques billes sur le savoir-être, sur le savoir-faire, et pour que, même s'ils ne connaissent pas, qu'ils évitent de faire des refus de soins, parce qu'on a vraiment besoin de médecins de proximité.
Et en fait, vous adressez toute la ligne, c'est-à-dire permettre aux patients
de comprendre, permettre aux médecins effectivement d'avoir moins peur du handicap, et puis Culture Relax, là, c'est dans le cadre d'un autre engagement. L'idée, c'est toujours pareil sur ce regard de la société, c'est-à-dire que quelqu'un avec un handicap, notamment des troubles de comportement, peut être empêché d'aller au cinéma, au théâtre, tout simplement parce qu'il exprime son émotion différemment. Parfois en se levant, en tapant des mains, en faisant des cris. Et en fait, le regard des gens fait que les familles renoncent à sortir, hein, tout simplement, s'enferment encore plus.
Vous aviez renoncé, vous ?
Non, mais moi, j'ai rencontré justement cette association où je me suis engagée par la suite, hein, qui a été formidable et qui a transformé justement nos moments d'accès à la culture en famille. Puisque c'est des moments tout simples, hein, c'est des séances ordinaires où on prévient juste en amont qu'à cette séance, les gens peuvent exprimer leurs émotions différemment. Et c'est comme ça, tout le monde est prévenu et le regard change totalement. Et du coup, les personnes avec des troubles de comportement n'en ont plus, ou presque plus. C'est incroyable.
Ça diminue forcément. Et vous, Léa, votre engagement, c'est notamment auprès du Collège Citoyen de France. Vous êtes l'une des cofondatrices. Est-ce que vous pouvez nous partager en quelques mots ce que c'est ce Collège Citoyen ?
Avec plaisir. On a monté il y a 2 ans une école politique, mais apolitique, qui s'appelle le Collège Citoyen de France, qu'on a monté à 10. On vient tous d'horizons différents. Vous avez Thierry Cotillard, actuel patron d'Intermarché, l'artiste JR, l'écrivaine Tania de Montaigne, réalisateur Édouard Bergeon. Enfin voilà, on est tous avec une histoire différente, mais on s'est réunis autour d'une conviction, c'est qu'il y avait des femmes et des hommes qui avaient des engagements et qui faisaient des choses assez extraordinaires sur le terrain, qu'on voulait voir plus représentées en politique. On les appelle les rêveurs-faiseurs, qu'on voulait accompagner ces gens-là à se rapprocher de la politique, soit en étant eux-mêmes élus, soit en pouvant avoir un impact sur les politiques publiques. On en est à notre troisième promotion qui est en train de se terminer. On va recruter la 4e promotion à partir de début 2024.
On va terminer par un portrait chinois. Pauline, qu'est-ce qui vous ressource aujourd'hui avec toutes ces activités, tout ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous ressource?
Clairement, ce qui me ressource, c'est mes engagements. C'est le fait d'être... quelque part au service des plus fragiles. Et puis, ma famille et mes amis. Une bonne bouteille de vin avec mes familles et mes amis, c'est toujours ressourçant.
J'ai cru comprendre que vous aimiez bien le Bourgogne.
Exactement.
Léa ?
Alors moi, qu'est-ce qui me ressource ? Mes amis, évidemment. Et après, moi, j'ai un petit truc à moi qui est que j'aime bien lire des livres à voix haute. Parce que je trouve que l'hôpital et l'entrepreneuriat sont des milieux assez intenses, et l'hôpital parfois est un milieu qui peut un peu vous anesthésier, en tout cas en fin de journée, parfois on a besoin d'évacuer, et le fait de lire des livres à voix haute permet de s'imprégner des émotions, et moi c'est vraiment un monde parallèle que je me crée, la littérature.
Et vous faites ça en quelle langue ?
Je fais ça en français.
D'accord. À quoi avez-vous renoncé pour votre vie d'entrepreneur ?
À rien, parce que je pense que c'était des choix à chaque fois.
Je dirais exactement la même chose, à rien. La seule chose que je me suis dit pour dire quelque chose, c'est peut-être autant pour moi. Voilà, parce que avec plein d'engagement, on a un peu moins de temps. Mais...
La discipline de vie qui vous sauve ?
La méditation.
Quotidienne ?
Quotidienne. 15 minutes le matin. J'arrivais pas au départ à faire de la méditation sans rien faire, donc je le faisais en me brossant les dents ou en me préparant mon petit déjeuner. Et là, je commence à arriver à le faire sans faire quelque chose en même temps, et j'avoue que ça change la donne pour la journée.
C'est sûr aussi. Pauline ?
Moi, je dirais le sport. Le sport, j'en ai vraiment besoin, mais toujours pareil, besoin...
Quel sport vous faites ?
D'abord, je suis tout le temps en vélo, vous pouvez en témoigner. Et ensuite, je fais du pilate, de la cardio, du renforcement, je cours, je nage. Ouais.
Qu'est-ce qui a pris plus de temps que prévu ?
Tout. Tous les projets, pour le coup, on sait très bien où on veut aller, on pense qu'on va y aller assez vite, et puis en fait, ça prend toujours plus de temps.
Notre utopie est souvent plus rapide que la réalité des choses, mais en même temps, c'est ce qui nous fait nous lever le matin et qui nous donne l'énergie de parfois devoir soulever des montagnes.
De quoi n'avez-vous plus peur ?
Moi, je crois que j'ai plus peur du vide. Ça a été pendant longtemps un sujet, il y avait une espèce d'urgence de l'extraordinaire quand vous montez un truc à 14 ans, que tout grandit très vite, qu'on vous dit c'est quoi le truc d'après. Et là, je pense que j'arrive à un moment où ce que j'ai envie, c'est de l'équilibre. Et donc, le vide me fait plus trop peur.
Je crois que je n'ai plus peur de la fragilité, en fait. Pour moi, elle fait partie de la vie. Voilà, que ce soit une maladie, que ce soit un handicap, et presque je m'y prépare.
Merci beaucoup Pauline Dorgeval, Léa Moukanas, merci à vous qui nous écoutez. Un immense merci aussi à Camille Codor, Estelle Collat, Marie Jaworski. Merci à Sandrine Dao, Zaya Cassel et à l'équipe des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous à la rentrée pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.